Chers amis, chers camarades, nous vivons au XXIe siècle dans un des pays les plus riches de la planète. Pourtant, autour de nous, les travailleurs se privent de repas le midi afin de remplir le réservoir de la voiture pour aller travailler. Des millions de femmes et d'hommes sont en train de se demander comment ils vont se chauffer cet hiver. Car les prix de l'énergie battent les records les plus fous. Le gaz devrait encore augmenter de 15% l'an prochain. Et ce n'est pas le nouveau chèque énergie annoncé de 100 ou 200 euros qui va résoudre le problème. C'est tous les mois qu'il faut bien plus que ça. Nous ne voulons pas des aides pour payer le chauffage ou l'alimentation. Nous voulons que nos salaires, nos pensions, nos allocations soient suffisants pour vivre dignement et suivre les hausses des prix. On nous annonce même des restrictions dans les établissements scolaires, les gymnases, les bibliothèques ou les piscines municipales, pour cause de factures de gaz impossibles à payer par les communes. Cette semaine, c'est l'Université de Strasbourg qui vient d'annoncer 2 semaines de fermeture supplémentaire cet hiver à cause de la facture de l'électricité. Partout dans les médias, on nous explique que c'est une fatalité, que c'est un changement d'époque, qu'il faut s'habituer et faire des sacrifices. Macron a même osé annoncer sans aucune honte la fin de l'abondance. Comme si ces hausses des prix étaient un phénomène naturel. Mais elles sont les résultats de la spéculation. D'ailleurs, elles avaient commencé avant la guerre en Ukraine. Les capitalistes du pétrole et du gaz sont en train d'accumuler des fortunes grâce à ce véritable racket sur les classes populaires. Total Energy ou Engie annonce des profits records. Autant dire que la crise de l'énergie, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Dans l'alimentaire aussi, la spéculation va bon train. Alors que les récoltes de blé ont eu lieu bien avant la guerre en Ukraine, le prix du blé a flambé, aggravant brutalement les conditions de vie de millions de femmes et d'hommes au Maghreb et en Afrique. 200 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Les entreprises, quant à elles, sont confrontées à des hausses des prix de leurs matières premières, peuvent augmenter leur prix de vente et elles ne s'en privent pas. Les salariés, eux, fabriquent donc des produits qui sont vendus plus cher, mais par un salaire bloqué. C'est une forme qui prend la lutte des classes aujourd'hui. La bourgeoisie s'accapare une part de plus en plus grande la richesse produite. Avec plus de 72 milliards d'euros de profit sur les 6 premiers mois de l'année, les entreprises du CAC 40 se portent parfaitement bien. ST Micron, Célestis, Dassault, ArcelorMittal. Même Saint-Gobain, qui est en train de fermer l'usine de Savoie réfractaire à Vénissieux, annonce une hausse de sa profitabilité. Il n'y a aucune fatalité à cette situation. C'est une question de rapport de force. Il y a un mécontentement sur les salaires qui peut se transformer en colère. Des grèves pour les salaires éclatent dans plusieurs entreprises. Cette semaine, c'est Arkema Pierre Bénite que des travailleurs se sont mobilisés, revendiquant 200 euros d'augmentation de salaire et une prime de 6 000 euros. D'autre part, plusieurs syndicats appellent à une journée de grève interprofessionnelle le 29 septembre, jeudi prochain. Ce sera aussi une occasion d'exprimer cette colère, de montrer qu'une partie de la classe ouvrière n'est pas résignée et se prépare à relever la tête. Le monde du travail qui fait tourner toute la société doit mettre en avant ses exigences. Les salaires, les pensions, les allocations doivent être indexées sur l'inflation. Ils doivent augmenter en fonction des hausses réelles des prix. Les admirateurs du système capitaliste nous expliquent régulièrement que les capitalistes prennent des risques, qu'ils investissent, qu'ils préparent l'avenir des entreprises et que c'est avec ça que servent les profits. Mais qui peut croire encore à ce type de conte de fées ? Prenons l'exemple de l'électricité. Voilà qu'on nous prépare à des coupures d'électricité pour cet hiver. Parce que EDF n'a pas suffisamment investi, que ce soit dans l'énergie renouvelable ou pour entretenir les réacteurs nucléaires qui sont arrêtés pour cause de corrosion. Comme toute entreprise capitaliste, EDF n'a visé que la rentabilité, les profits, en réduisant le personnel, en développant la sous-traitance en cascade et la précarité. Elle a servi de vache à lait pour créer artificiellement des concurrents privés qui font gagner du fric à leurs actionnaires. À présent, les capitalistes demandent à l'État de relancer les investissements nécessaires. Sur la question de l'eau, c'est pareil. Il y a eu la sécheresse cet été et, avec l'évolution du climat, cela risque de s'aggraver. Il y a eu des restrictions d'eau, mais le réseau de distribution est tellement mal entretenu que les experts estiment que 20% de l'eau se perd dans les canalisations. Il faut dire que les réseaux d'eau sont entre les mains de boîtes privées, comme Veolia, Suez, et qui se sont largement enrichis. Mais maintenant, il faudrait investir pour remettre en état le réseau Vétus. Et ils demandent aux collectivités locales de mettre la main à la poche. C'est ça le capitalisme. Les propriétaires des usines, des moyens de transport, des banques dirigent toute l'économie. Ils décident ce qui est produit et où. Ils décident de nos vies, de nos salaires, de nos conditions de travail, des embauches. Tout est organisé dans un unique but. Accumuler des profits à court terme. Le parasitisme ne connaît pas de limite. Résultat, leur système entier n'en finit pas de s'enfoncer dans le chaos. Crise économique, crise climatique, menace de guerre, crise énergétique. Pourtant, la société n'a jamais été aussi riche, n'a jamais eu autant de moyens techniques, scientifiques, humains pour s'attaquer aux problèmes de l'humanité. La crise économique s'aggrave, intensifie les rivalités entre les grandes entreprises pour se partager les marchés, pour accéder aux matières premières. Cette concurrence se prolonge dans des guerres partout sur la planète, comme celle qui ensanglante en ce moment l'Ukraine. Ces guerres permettent aux prises de dictateur Poutine qui n'hésite pas à creuser un fossé de sang entre les populations russes et ukrainiennes et les puissances impérialistes menées par les États-Unis. Ceci profite de cette guerre pour affaiblir la Russie. Et elle est une bonne nouvelle pour les industriels de l'armement comme Dassault, Safran ou Thales qui frétillent la perspective de commandes de missiles ou d'avions de combat. Mais cette guerre avec des sanctions économiques contre la Russie a aggravé le chaos de l'économie, avec en particulier les menaces de rupture d'approvisionnement en gaz de l'Allemagne, principale puissance industrielle de l'Europe. Cette guerre est le dernier prétexte trouvé par les gouvernements pour justifier des attaques toujours plus violentes contre le niveau de vie de la classe ouvrière dans tous les pays. Il faudrait accepter de payer le prix de nos libertés et de nos valeurs, a déclaré Macron au mois de juillet. Car quel que soit le chaos économique, les capitalistes et leurs serviteurs politiques ont un axe, faire payer leur prise aux travailleurs. Leurs attaques sont tous azimuts. Il y a cette campagne sur les difficultés de recrutement qui sert à justifier les attaques contre les chômeurs. Il y a un an, le montant des indemnités avait déjà été baissé et les conditions pour les toucher ont été durcies. À tel point que seuls 36% des travailleurs au chômage sont indemnisés. Mais le MEDEF exige que ça aille encore plus loin. Le gouvernement et certains conseils départementaux, comme l'Ardèche, évoquent l'idée d'obliger ceux qui touchent le RSA à travailler 10 heures par semaine. Mais s'ils ont du travail pour ceux qui sont au RSA, pourquoi ne pas les embaucher avec un vrai salaire ? Cette campagne vise à faire oublier que c'est le grand patronat qui est responsable du chômage avec ses fermetures d'usines, ses restructurations, ses pressions permanentes pour que chacun d'entre nous fasse le travail de deux ou de trois. Leur objectif est d'obliger les travailleurs à accepter n'importe quel boulot, n'importe quel salaire et dans n'importe quelle condition. En fait, c'est une attaque pour tous les travailleurs, car cela fait pression à la baisse des salaires. Macron a annoncé aussi, cette semaine, sa volonté de réformer les retraites. Il n'y a aucune urgence. Mais, comme chacun de ses prédécesseurs depuis 30 ans, il veut réduire la part des richesses qui revient aux retraités. Et les commentateurs politiques et les députés vont discuter doctement pour savoir s'il vaut mieux reculer l'âge de départ ou augmenter le nombre d'annuités nécessaires pour avoir une retraite complète ou un peu des deux. En gros, vous préférez qu'on vous coupe un bras, une jambe ou un peu des deux. Déjà aujourd'hui, combien de travailleurs terminent leur vie active en étant au chômage et partent ensuite avec une retraite de misère? Combien se font licencier à 50 ans pour inaptitude parce que le travail leur a ruiné la santé? Et après le départ en retraite, combien sont contraints de travailler à nouveau pour boucler des fins de mois comme veilleur de nuit ou garde d'enfants? En fait, ces énièmes réformes visent à encore et toujours des économies sur le dos des travailleurs pour dégager, comme ils le disent, des marges de manœuvre budgétaire, c'est-à-dire pour verser des cadeaux aux grands patronats. C'est avec la même logique qui a abouti aujourd'hui à la destruction des hôpitaux publics. Depuis 40 ans, ça a commencé sous Mitterrand et la gauche. Les gouvernements successifs ont taillé dans les budgets de l'hôpital et l'ont de plus en plus soumis aux financiers. Les hôpitaux ont dû emprunter auprès des banques pour faire des travaux. C'est le cas des hospices civils de Lyon où je travaille. Aujourd'hui, leur endettement est de 840 millions d'euros pour un budget annuel d'environ 1,7 milliard. Le remboursement de cette dette sert de prétexte pour toutes les économies, entre autres les 200 ou à 300 suppressions de postes par an. Le nettoyage, la conciergerie, la gestion du matériel médical ont été sous-traités à des patrons privés qui profitent de l'argent public et surexploitent leurs salariés. Entre les suppressions de postes, les fermetures de lits massives et la faiblesse des salaires, ceux qui avaient choisi les métiers de la santé par vocation sont de plus en plus écœurés. On voit des étudiants infirmières quitter la formation en cours de route après avoir découvert en stage la réalité des conditions de travail. Les hôpitaux peinent à remplacer ceux qui partent. Cet été, à l'hôpital neurologique à Brun, 45 lits étaient fermés. Il manquait 80 infirmières. Au bloc opératoire, 7 salles sur 10 étaient fermées. Des soignants envoyés dans des services pour lesquels ils ne sont pas formés. Aux urgences pédiatriques à l'hôpital femmes, mères, enfants, faute de personnel, l'attente monte régulièrement à 8 heures. Une éternité pour des parents inquiets pour leur enfant malade. Les brancardiers, les soignants reviennent régulièrement sur leur repos. Cet été, une secrétaire est même venue dépanner pour servir les repas, tant la tension est grande. Le système de santé en ruine ne repose plus que sur les dévouements et la responsabilité des travailleurs. Pendant ce temps, les financiers encaissent les intérêts de la dette et les secteurs les plus rentables de la santé sont passés aux cliniques privées et viennent arrondir les bénéfices de grands groupes comme la multinationale Ramsay. Cela devient invraisemblable dans tous les domaines qui concernent notre vie. La soif de profit du capital fait des ravages. Il est urgent de renverser cette organisation sociale. Il ne s'agit pas seulement de taxer les super-profits et de mieux répartir les richesses. Aujourd'hui, même des politiciens pro-capital comme Macron ou la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se sentent obligés d'évoquer une taxe sur les super-profits. Tellement est révoltant le décalage entre les sacrifices imposés aux travailleurs et ces fameux super-profits des groupes pétroliers ou gaziers. Même si une taxe venait à exister et si elle était ensuite réellement appliquée, ce qui est loin d'être sûr, elle ne résoudrait pas le fond du problème. Car elle ne met pas fin à la dictature qu'exerce la minorité de possédants sur toute la société. On peut parier qu'elle servira à verser de nouvelles subventions aux capitalistes à financer à leur place les investissements nécessaires. Ce qui est vital, c'est de contester le pouvoir de ce grand patronat, c'est de réorganiser complètement l'économie en fonction des besoins. La force qui est capable de la faire, c'est la classe ouvrière, c'est le monde du travail, à condition de s'organiser et de prendre le pouvoir. Ce sont déjà les travailleurs sur qui repose toute la société. Ce sont les travailleurs qui se comportent de manière responsable, au contraire de ceux d'en haut. Les pompiers qui risquent leur vie à lutter contre les incendies, tandis que les gouvernements ont réduit les budgets. Les infirmières, les aides-soignantes qui ont réorganisé les services de l'hôpital pour faire face à l'épidémie, alors que rien n'avait été prévu. Les enseignants, les ASEL, les personnels du service qui se décarcassent pour accueillir tous les enfants dans des classes surchargées. Les travailleurs des EHPAD qui résistent au quotidien face au manque de temps pour traiter les anciens avec un minimum d'humanité. Les travailleurs de la chimie dans des sites dangereux classés Céveso qui reviennent sur leur repos quand il manque du monde. Les travailleurs d'EDF qui résistent aux pressions pour aller toujours plus vite, qui assurent la sécurité des centrales nucléaires. Tous ensemble, nous sommes une seule classe ouvrière. Malgré ceux qui cherchent à nous diviser selon les origines, la religion, les papiers, le sexe, le statut, c'est sur nous que repose la société. Collectif. Collectivement, nous sommes les mieux placés pour connaître les besoins dans chaque secteur. Nous savons où est-ce qu'il faudra embaucher, où est-ce qu'il manque des fournitures. En nous organisant, nous pourrons aussi connaître l'état des richesses dans les entreprises en imposant notre contrôle sur les comptes privés des actionnaires. Les dirigeants créent notre force, car ils savent que leur système peut provoquer des explosions sociales à tout moment. Regardez les grèves pour les salaires en Grande-Bretagne. Des mobilisations jamais vues depuis 40 ans, malgré toutes les lois anti-grève possibles. Regardez en Iran, où les ayatollahs font régner leurs lois réactionnaires depuis 40 ans, en réprimant férocement tous leurs opposants. Et bien là, la colère vient d'exploser après le meurtre barbare d'une jeune femme par la police et des mœurs chargées de contrôler si les femmes sont correctement voilées. Parfois, la colère est telle qu'elle passe par-dessus la peur de la répression. Mais des grèves, des manifestations, même déterminées, ne peuvent suffire à renverser le pouvoir de la bourgeoisie. De multiples faux amis se tiennent prêts à proposer leurs services pour un ravalement de façade du capitalisme. Des chefs syndicaux aux politiciens de gauche ou ceux de l'extrême droite peuvent être capables de surfer sur la colère tout en sauvant la mise au patronat et à sa propriété privée. Il faut s'y préparer et y préparer les travailleurs qui nous entourent. C'est ça qu'il faut servir, c'est ça que peut servir un parti révolutionnaire. Discuter, réunir, tisser des liens entre les travailleuses et les travailleurs qui ont envie de défendre ensemble les idées communistes, réfléchir ensemble pour se donner les moyens de réimplanter la conscience de classe que les partis de gauche ont détruit, transmettre les expériences militantes des organisations et des révolutions du passé. C'est ce qu'il y a de plus important à faire aujourd'hui. Il faut continuer à lever bien haut le drapeau des idées communistes, de la révolution sociale. Il faut convaincre qu'avec les travailleurs au pouvoir, il y a un autre avenir possible pour l'humanité. Un avenir sans inégalité, sans exploitation, sans frontières, une société communiste.